Front de Noir, deuxième acte. Et on commence ce deuxième acte avec un livre.
Un auteur écossais qui s'appelle Peter May, lequel est auteur vit en France, mais bon, c'est pas important.
C'est celui qui vit dans le Luberon ? Non, je sais pas. Non, mais c'est que non.
Donc, Peter May, en fait, il est assez connu pour une série qui mettait en scène un inspecteur chinois qui s'appelle Li Yin, et puis sa compagne qui était une pathologiste américaine.
Pathologiste, mais presque.
Voilà, exactement. Bon, c'était donc une série de 5 ou 6 épisodes. Au début, ils se rencontrent, après, ils se mettent ensemble, et puis après, ils vont aux États-Unis. Bon, bref, c'était.
Et à la fin, ils se séparent.
C'était des polars sympathiques. Un peu léger, vaguement harlequin, mais bon, qui était pas mal. Là, il change de tout au tout, de rythme de pays déjà, et il nous ramène dans son pays d'origine, l'Écosse, plus précisément dans une petite île du nord-ouest de l'Écosse, qui s'appelle l'île de Lewis, qui se situe, pour ceux qui ne savent pas, dans l'archipel des Hébrides. C'est donc une île qui est ouverte au vent. En face, vers l'ouest, il n'y a rien que l'Amérique. Rien donc pour la protéger du vent, de la mer, de ça. De la mer, pardon.
Oui.
On coupera en montage, chef. D'ailleurs, une petite anecdote. Corinne pourra le confirmer. Quand nous avons été sur cette île de Lewis en plein mois d'août, c'est là qu'on a passé un de nos plus mauvais hivers en été.
Ah oui, à peu près la température d'aujourd'hui.
Voilà. Donc, revenons à ce roman. À cause d'une ressemblance avec un meurtre sur lequel il est en train d'enquêter dans la banlieue d'Edimbourg, le flic Finn MacLeod va retourner sur son île natale, l'île de Lewis, pour de nouvelles investigations sur un meurtre donc, qui vient de se produire sur cette île. C'est une île qu'il a quittée il y a bien longtemps pour aller à l'université et dans laquelle il n'est jamais, au grand jamais, revenu. Et on va comprendre pourquoi tout au long du récit. Le roman est donc basé sur une double narration. Au présent, l'enquête proprement dite du flic MacLeod avec la police locale, et au passé, le récit de la jeunesse, de l'adolescence du flic. Puis ses amours jusqu'à son initiation, sur Hansreig. Hansreig, c'est le rocher de l'île aux oiseaux, d'où le titre, parce que j'ai oublié de dire le titre.
Ce
roman de Peter May, donc, qui est paru aux éditions du Rouergue, s'appelle L'île des chasseurs d'oiseaux. Et l'île des chasseurs d'oiseaux, donc, ça s'appelle, c'est le rocher de Hansger, il faut que je le prononce bien. C'est un lieu rituel un petit peu au nord donc, de l'île de Lewis, où chaque année, les ados de l'île vont faire en quelque sorte leur période initiatique, une espèce de bar mitzvah écossaise. Ils organisent une grande chasse au foot bassin. C'est en fait, cette île est une réserve de foot bassin. Et il paraît que le jeune foot bassin tout petit, l'oisillon de foot bassin, c'est très bon. Donc ils font une grande chasse, c'est assez sanglant et c'est traditionnel. Donc voilà, évidemment. Et les gens, les vieux de l'île profitent pour initier les jeunes à la fois à la chasse. En fait, ils deviennent adultes à ce moment-là. Bon, je reviens aussi à la mort dans l'île. C'est le caïd de l'île, enfin du moins de l'époque de la jeunesse du flic, qui a été tué. Et c'était un caïd et un salaud. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles de l'avoir descendu. Enfin, pas descendu, pendu, écorché. Bon, je ne vais pas vous en raconter plus, car en fait, plus que le pourquoi du meurtre, c'est le récit de la vie dans l'île, il y a 10, 15, 20 ans, et encore même maintenant, une île où, coiffée par la religiosité, où on respecte encore le sabbat chrétien, une petite île où tout le monde se connaît, tout le monde s'aime, tout le monde se déteste, tout le monde boit effectivement dans les mêmes pubs. C'est un roman très très noir, un peu comme la tourbe qu'il y a partout à l'horizon, qui sert encore de chauffage, encore de nos jours. C'est un roman très ilien, si j'ose dire.
Insulaire,
voilà. Mais j'aimais bien ilien, mais insulaire, ça marche aussi.
Mmh.
C'est un roman où le passé et les traditions ancestrales plombent vraiment la vie de tous les habitants depuis longtemps et encore maintenant. C'est vraiment très prenant. Et puis en plus, c'est assez rare parce que c'est vrai, les romans dont on parle sont, le roman noir est souvent plutôt urbain. Et là, la nature est reine, ou du moins elle serait reine si la religion ne l'était pas.
Alors, moi, je n'ai pas lu ce roman, mais ça me fait penser à un roman dont j'avais parlé, il me semble, il y a à peu près 2 ans aussi, qui est un roman qui s'appelle « Turbulence cathodique » de Colin Batman. Et le protagoniste va effectivement, dans une île, enquêter sur une sombre histoire de religion et on retrouve cette religiosité.
Là, c'était en Irlande, là, c'est en Écosse. C'est exactement, ça ressemble beaucoup, sauf que là, bon, ce n'est pas des catholiques, c'est des protestants, je ne sais pas trop quelle religion.
Adventistes du septième jour et de la septième côte.
Mais c'est vraiment passionnant et à la fois c'est assez dur et on apprend bien pas mal de choses sur la vie dans cette région d'Écosse. Je répète donc, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Peter May, L'île des chasseurs d'oiseaux, aux éditions Rouergue, collection Rouergue noire.
Alors, on va dévoiler toutes les vicissitudes de cette émission. Je ne veux jamais présenter le morceau de musique, puisqu'en plus Jacques est beaucoup plus spécialisé dans la musique que moi. Et pour cette dernière émission de l'année, je m'étais dit, je vais faire un effort. Et tout d'un coup, je me retrouve avec un titre qui n'est même pas en anglais. C'est même pas du français. Jacques, tu vas présenter.
En fait, c'était pour illustrer. Donc, c'est une chanson, je suppose, qui est écossaise. Enfin, tous les cas gaéliques, parce qu'en plus, dans cette île, ils parlent pratiquement tous gaélique. Donc, la chanteuse s'appelle Mary McInnes, ou à peu près. Et le titre, c'est Mared Og, sous réserve de prononciation. Mais pour vous, vous connaissez peut-être, parce que c'est assez connu.
The sun's o'er the shore and the waves o'er the sea. When his back is turned, he's a stranger to me. He's a stranger to me. I in sail it's a me, but I care no more for him than the waves o'er the sea. I ens had a sweetheart, but knew I ain't. He stole a warmer heart, but I got it back again. I got it back again. I in sail it on be, but I care no more for him than the waves o'er the sea. Oh, the sun's o'er the shore and the waves o'er the sea. When his back is turned, he's a stranger to me. He's a stranger to me. I in sail it on be, but I care no more for him than the waves o'er the sea. He bought me a present, a broad diamond ring. He thought it would entice me to gang awa' wi' him. But I was nae sae foolish as he ta'en me to be, and I care no more for him than the waves o'er the sea. The sun's o'er the shore and the waves o'er the sea. When his back is turned, he's a stranger to me. He's a stranger to me. I in sail it on be, but I care no more for him than the waves o'er the sea. Oh, he is the sun, oh, a high loving king. Doctor, oh, a fair working man, say let him drink his wine, I and I'll drink my tea, but I care no more for him than the waves o'er the sea. Oh, the sun's o'er the shore and the waves o'er the sea. When his back is turned, he's a stranger to me, he's a stranger to me. I and sail it on me, but I care no more for him than the waves o'er the sea.
Nous sommes en 1921 à Toulouse. Évidemment, pas dans le morceau de musique que l'on vient d'écouter, mais dans le prochain livre dont je vais vous parler, qui s'appelle « Rendez-vous au 10 avril », qui est un livre de Benoît Séverac et qui parut il y a quelques mois chez TME Éditions. Dans ce livre, on fait la connaissance d'un inspecteur, qui n'a pas de nom d'ailleurs. Il commence une nouvelle journée d'enquête, sans illusion, sans passion. Mais le jour est quand même préférable à la nuit pour lui, peuplé des morts de la Grande Guerre, envahi des fantômes et des bruits d'obus. Il a fait la Grande Guerre, un survivant. Seul l'alcool, seul l'opium, la morphine quand il en obtient, le maintiennent parmi les vivants. Il n'est pas très apprécié de ses collègues, qui ne le comprennent pas, peu soutenu par sa hiérarchie, qui veut effacer au plus vite les affres de cette boucherie. En gros, c'est un homme seul. Et cet homme seul va s'intéresser à deux affaires. D'abord, un bourgeois, mort soi-disant d'une crise cardiaque. En tout cas, le médecin de famille l'affirme. Mais, comme dirait un chanteur, chez ces gens-là, monsieur, on ne meurt pas, monsieur. Du moins assassiné. Autre enquête, celle du, encore soi-disant suicide, d'un professeur de l'école vétérinaire qui se serait suicidé dans l'école même, dans un de ses bureaux. Et pour cet inspecteur, pour ce flic, ça va devenir un challenge, une quête, devrais-je dire, pour ce flic complètement au bout du rouleau et qui semble faire de cette affaire, meurtre ou suicide, une affaire personnelle. Parce qu'il en a marre, marre de la hiérarchie, marre de la bourgeoisie hypocrite, marre des gouvernants et de leurs impostures. Et surtout, marre de ses souvenirs et de ses cauchemars, marre de son passé. Alors, quand ses supérieurs lui intiment l'ordre de conclure au suicide, il va s'entêter, se faire des copains parmi les apprentis vétérinaires, et il va déterrer, si ce n'est des cadavres d'animaux, du moins des dossiers bien nauséabonds. On vous avait un petit peu parlé de Benoît Sévérac lors de, la sortie de son premier roman, qui s'appelait Les Chevelus. Et alors, Laure, j'avais dit que c'était plus un roman historique. On sentait une patte d'écriture. Ça se passait il y a 1500 ou 1600 ans. Et c'était donc plus pour moi un roman historique qu'un polar. Et bien là, bien que l'action se situe dans les années 20, on est vraiment dans le polar et même plus dans le roman noir. L'auteur fait semblant de nous happer avec les enquêtes de ce policier, mais très vite, c'est plutôt dans l'âme tourmentée du flic que nous nous plongeons. Et là aussi, c'est une quête assez impressionnante. Et ça va vraiment, moi, ça m'a complètement passionnée. L'auteur, Benoît Sévérac, joue habilement avec nos sentiments. On aime le personnage, on l'aime un peu moins, on doute, on le déteste un peu, on a de la sympathie. Il y a une espèce d'empathie qui est à la fois positive et négative envers ce personnage. Et Benoît Sévérac vraiment réussit un portrait d'un être humain tourmenté, vraiment très très beau. Et à travers le portrait et le destin de cet homme, on va aussi parler de cette putain de guerre qui a fait autant de dégâts, tant dans les corps que dans les esprits, dans les âmes. C'est aussi, cerise sur le gâteau, un portrait très intéressant de la société toulousaine dans les années 20. Tout en nuances, on parle aussi bien des notables suffisants et hautains, jusqu'aux plus humbles, les ouvriers, les ouvrières, les femmes de chambre, qui sont même pas vraiment des êtres humains, et qui triment et courbent les chines. Bref, c'est vraiment un auteur à découvrir. Et si votre libraire n'a pas cette édition qui est une édition toulousaine et qui est assez mal distribuée, il faut vraiment lui réclamer. Donc je rappelle, c'est chez TME Éditions. Le titre est Rendez-vous au 10 avril et c'est d'un auteur dont je pense on va vous reparler, qui s'appelle Benoît Sévérac. Jacques.
C'est un auteur dont on va sûrement vous reparler, mais dont on vous a déjà parlé.
Beaucoup parlé, d'ailleurs.
Voilà, qui s'appelle, on l'a même eu en interview ici, me semble-t-il, et il s'appelle Maurice Atia. Son roman s'appelle Paris Blues. Il est publié aux éditions Babel Noir, donc c'est la collection de poches des éditions Actes Sud, pour 12,50 €. Il faut dire que c'est un gros roman de presque 600 pages. Maurice Atia, son héros, c'était Paco Martinez, un flic qui était initialement en Algérie. Et il continue sa lente remontée vers le nord. Il a quitté Alger à la fin de Alger la Noire, donc, qui était le premier roman, à peu près sain et sauf, du moins physiquement. Ensuite, à la fin du deuxième, il quitte Marseille, donc le deuxième s'appelait Pointe Rouge, avec 4 balles dans le buffet. Paf, 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 paf. Et le voilà, à Paris, désormais, déguisé en étudiant, un peu sur le retour quand même.
Oui, c'est ce que j'allais dire, depuis le temps qu'on suit ses aventures,
il a quand même pas loin d'une quarantaine d'années. Étudiant donc sur le retour pour une mission, de nos jours on dirait undercover, à l'époque on devait peut-être dire infiltration. Mais Paco en fait, il n'a pas la forme, son boulot ne le satisfait plus beaucoup, il est scellé dans la capitale, sa compagne Irène, elle est restée à Aix-en-Provence. Alors il fréquente un bar non loin des Halles, qui sont d'ailleurs ces Halles en train de déménager vers Rungis. Il fréquente aussi un sex shop, qui est une nouveauté quand même à l'époque, lequel cette shop est tenue par une superbe Danoise.
On comprend pourquoi il fréquente ce sex shop alors.
Mais aussi, il fréquente de drôles de loustiques dans cette université de Vincennes, qui était une université expérimentale. Et par l'intermédiaire, une belle Amazone, en fait, parce qu'il la rencontre, elle est sur un cheval, il va être ramené vers la guerre d'Algérie, car le père de cette nana a été membre de l'OAS. Bon, je ne vais pas évidemment tout vous raconter, parce que comme d'habitude, sinon ça ne sert à rien que vous lisiez le livre. Et puis moi, j'aurais pas assez de temps pour en parler. Mais c'est vraiment un très bon roman. J'avais un tout petit peu moins aimé le suivant, mais celui-là...
Le précédent. Le suivant du premier.
Celui-là est vraiment très très fort. Maurice Atia abandonne là pratiquement ce qui faisait un peu sa, caractéristique, c'était la narration polyphonique où chaque chapitre changeait de personnage qui racontait l'histoire. Là, il confie quasiment tout le récit à Paco, à part quelques petites exceptions où on voit un peu Irène, où on voit un des deux personnages qui s'explique en fait. Mais en fait, ce qui reste, le mot du roman, ça serait la désillusion. Et pourtant, ce roman est une... outre l'enquête, la description, ça c'est vraiment, c'est une véritable réussite qui, j'ai cru le comprendre, concluait cette trilogie. Alors
on va pas dévoiler.
Tout vous dévoiler s'il meurt à la fin ou pas, etc.
S'il meurt mal à la fin. Est-ce que son blues est dû aussi au fait qu'il soit exilé à Paris et que quand un pied noir arrive à Paris, quand même...
Eh bien, il y a un petit peu de ça, mais en fait, c'est bizarre. C'est une des réflexions que je voulais faire juste maintenant, d'ailleurs. Je te remercie de me faire tendre la main comme ça. Bon, c'est effectivement subjectif, mais il y a quand même un truc que je remarque dans les romans de Maurice Attia, c'est que ce Paco Martinez, il a vécu dans les trois plus belles villes, enfin disons trois des plus belles villes de la Méditerranée. Barcelone,
Jacques,
Alger
tu
et Marseille.
Né où Jacques, rappelle-nous où tu es né.
Bon, je suis né à Alger. Bon, voilà, il est né à Barcelone, donc il a vécu à Barcelone. Il a vécu à Alger, il a vécu à Marseille, et il préfère Paris morne et grise. C'est quand même un peu bizarre, mais bon, chacun ses goûts. Après tout, j'ai dit que c'était subjectif.
Oui, rappelons que Maurice Attia n'habite pas franchement le sud de la France non plus.
Et une deuxième remarque sur ce livre, c'est que les groupuscules qui est en train d'infiltrer à la fac de Vincennes, c'est la gauche prolétarienne. Et je trouve qu'il s'en prend un peu beaucoup à cette gauche prolétarienne, qui, somme toute, même si leur méthode pouvait être discutable, était quand même un groupe plutôt progressiste, à une époque où la droite, un peu comme maintenant d'ailleurs, était plutôt sacrément arrogante. J'ai trouvé un peu bizarre qu'ils s'en prennent qu'à eux, mais bon, après tout, c'est le droit de l'auteur de...
Oui, et puis
par contre, ça effectivement, ça va parfaitement dans l'intrigue, dans cette fac de Vincennes qui était assez drôle. Ça devait être pas mal d'être étudiant là-bas aussi, à cette époque-là.
Ne nous vieillis pas. Voilà, bien, pour une fois, on n'est pas tricard sur l'heure. Donc ça va nous permettre de rappeler les différents livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Donc moi, je vais rappeler ceux de Jacques. Le cœur de gloire. Un livre de Hervé Picard, intitulé « Troisième enquête de l'Antiquaire », et c'est donc aux éditions Castor Astral. On a aussi parlé de « L'île des chasseurs d'oiseaux » de Peter May, au Rouergue, Rouergue Noir, la collection Rouergue Noir, un beau gros livre.
Corinne a parlé de Françoise Laurent, « L'hiver continue au fond du magasin » aux éditions Krakoen, une coopérative éditoriale.
Oui, une très belle aventure qui a l'air de bien se passer, bien continuer.
Donc Benoît Sévrac, le titre c'est « Rendez-vous au 10 avril aux éditions TME, 6 à Toulouse ».
Voilà, et enfin Maurice Attia avec « Paris Blues » aux éditions Actes Sud, collection
Babel Noir.
Pardon.
Mais c'est pas grave.
Voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée.
Une bonne fin d'année.
Voilà, tu prends un peu l'accent pied noir rien que pour accompagner Paco,
peut-être,
ton personnage.
Ouais, ça doit être ça, c'est la lecture qui m'a fait revenir, ça.
Eh bien, bonsoir, bonne soirée et bonne lecture.